Pauline Lédé, bonjour.
Bonjour.
On vous cache juste à la sortie d'une pièce que vous avez donc mise en scène, co-écrite, Fleisch, et qui signifie donc chair ou viande en allemand, c'est ça?
C'est ça, c'est-à-dire que la particularité de ce mot en allemand, c'est que c'est le même mot pour désigner à la fois la chair humaine et en même temps la viande animale. Et du coup, c'est vraiment cette ambiguïté-là qui m'intéressait pour raconter cette histoire.
On s'attend finalement à une sorte de marathon de la danse. Et finalement, vous êtes assez sympa avec les acteurs parce que c'est plus du théâtre dansé.
Oui, complètement. C'est vraiment une fiction. On rentre dans une histoire. Je me suis donc beaucoup inspirée du roman On achève bien les chevaux d'Horace McCoy, qui lui-même a été adapté au cinéma par Sidney Pollack en 69. Je me suis aussi beaucoup inspirée d'images d'archives, de vidéos d'archives, de témoignages d'archives de l'époque sur ces marathons de danse comme ils ont vraiment existé. Après,
dans les années 30, hein, c'est ça?
Dans les années 30, aux États-Unis et en Europe. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il y en a eu beaucoup en France, par exemple. Ouais, période de crise, ça s'est arrêté après-guerre. Voilà, donc moi j'avais vraiment envie de raconter une histoire là-dessus. Évidemment que j'allais pas demander à mes acteurs de faire ce que j'essaye de critiquer par cette pièce-là. Donc après, pour l'anecdote, on a quand même commencé sur notre résidence, notre première résidence de création. Je leur ai proposé qu'on fasse 12 heures de marathon avec le même jeu, c'est-à-dire 50 minutes de danse, 10 minutes de pause, de midi à minuit. Et c'était vraiment intéressant qu'on s'attelle à cette chose-là pour commencer le travail. Je leur avais demandé d'avoir un papier, un stylo avec eux pour pouvoir écrire ce à quoi ils pensaient pendant le marathon. Parce qu'une des grandes questions quand même que j'avais, moi, par rapport à toutes ces images que je pouvais voir des marathons, c'est qu'est-ce qui pouvait bien se raconter au bout de mois entiers à être tout le temps dans cette promiscuité imposée. Donc voilà, j'avais bien envie d'avoir cette trace-là. Et d'ailleurs, ça existe dans le spectacle. C'est-à-dire les voix enregistrées qu'on entend, c'est des phrases qui m'ont transmises de leur pensée intérieure sur ce marathon qui n'était que de 12 heures, mais qui était déjà assez éprouvant quand même.
Quand vous dites que ça pouvait durer des mois, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que dans la réalité, ça durait vraiment des mois.
Ça durait des mois, effectivement. Au départ, en fait, ça durait un week-end. Et puis petit à petit, c'était le moment où il y avait de plus en plus la notion de record qui émergeait dans cette société-là, fin des années 20, quoi. Et donc petit à petit, il y a eu l'envie d'aller de pousser toujours plus loin les limites de la résistance humaine. De ce qu'on voit dans ces images d'archives, dans ces documents, c'est que ça pouvait durer plusieurs semaines, ça très régulièrement. Effectivement, plusieurs mois de temps en temps. Et le record... ce que dit Oscar dans le spectacle, c'est 1931, 7 mois et demi. Donc 5154 heures.
Ça pourrait exister aujourd'hui.
Oui, puis on pense aussi beaucoup à des émissions de télé-réalité.
Oui, bah, en tout cas, c'est sûr que pour moi, avec mon regard de 2016, quand j'ai écrit le texte, c'était même 2015, évidemment que j'avais envie que ça fasse écho à notre rapport entre nous, là, dans la société dans laquelle on vit, un rapport de compétition, d'extrême consommation, et jusqu'où tout ça nous pousse. C'est effectivement, du coup, c'est parfois allégorique, au sens des rapports de domination, de servitude volontaire. Pourquoi ces gens restent là? Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est quoi vouloir gagner? Pourquoi on nous pousse en permanence à vouloir être au-dessus des autres, à écraser les autres? Je voulais mettre en question aujourd'hui notre rapport à cette société capitaliste qui, me semble-t-il, de temps en temps, se fait évidemment au détriment de l'individu, du libre arbitre.
Alors pour ce spectacle, vous avez choisi des comédiens, des danseurs, mais aussi des amateurs. Vous avez travaillé avec des amateurs. Pourquoi avoir choisi de faire un travail avec des amateurs?
Alors très vite, la question sur ce spectacle, elle était comment est-ce que je raconte le temps qui passe? Là, dans la fiction que j'ai écrite, ça dure 3 mois et demi. Donc il fallait trouver comment on raconte ce temps qui passe dans ce huis clos. Il y avait bien sûr des résolutions par le texte, par la lumière, par ce compteur qui défile, qui montre le temps qui passe, par la musique qui se désagrège en même temps que les corps.
Oui, parce qu'il y a aussi de la musique en live, hein?
En live, ouais, il y a Baptiste Anné qui joue systématiquement pendant 7h45. Donc j'avais envie que la musique aussi se déréalise. Mais ceci étant dit, il me semblait quand même très important de pouvoir raconter cette espèce de masse comme ça, très vivante, tel un bal assez joyeux, un peu insouciant presque, et qui petit à petit amène vers la tragédie des survivants, des gagnants et de leur solitude. Donc pour moi, c'était vraiment important de passer d'un plateau extrêmement joyeux, pétillant, avec des visages très très différents les uns des autres, qui n'avaient pas forcément un rapport en plus de contrôle par rapport au plateau, voilà, de pouvoir avoir des vrais corps, quoi, je sais pas comment dire, parce que c'était le cas des marathons. Les marathons, c'était à cette époque-là, c'était pas forcément des danseurs qui s'inscrivaient, c'était tous les gens qui avaient cette nécessité de participer à ça pour gagner de l'argent, mais aussi être logés, nourris le temps qu'ils pouvaient rester dans cette compétition. Donc pour moi, c'était important d'avoir du monde au plateau pour faire exister d'autant plus cette solitude de la faim. Après, il y a aussi chez moi vraiment le plaisir de travailler avec des personnes amateurs et je le fais à côté de ma pratique professionnelle depuis assez longtemps par des stages, etc. Donc, ça avait du sens pour moi qu'il y ait des gens qui nous rejoignent systématiquement différents et que le spectacle s'adapte aussi avec ces nouvelles personnes, quoi.
Et il y a aussi les professionnels, on ne va pas tous les citer, mais il y a notamment ce MC, donc le maître de cérémonie, qui est assez impressionnant et qui joue quelqu'un d'assez diabolique un peu. Et aussi par rapport justement à cette allégorie, parce qu'à la fin, il reste les survivants.
Oui, ce personnage d'Oscar, que les concurrents appellent l'os en secret, qui est joué par Antoine Descanvel, formidable Antoine Descanvel. Je voulais que ce soit un personnage...
Il figure dans le roman ?
Oui, c'est Rocky dans le roman, mais il y en a plusieurs. Dans le roman, il y en a un principalement, mais il est entouré d'une équipe. Moi, effectivement, là, pour des questions tout simplement aussi de production, mais quand même aussi de dramaturgie, j'avais envie que ce soit une seule figure qui incarne à la fois cette autorité et en même temps cet aspect très paternaliste, très doucereux et évidemment manipulateur. C'est lui qui tire les ficelles, qui veut faire l'événement pour que le public continue de venir, voilà, créer comme ça ce suspense, quitte à le fabriquer, à le rendre un peu faux. Voilà, moi, ça m'intéressait que ce personnage soit ambigu, c'est-à-dire pas uniquement le gros méchant, parce que je trouve que tout ça, pareil, me raconte plutôt la manipulation de langage, c'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on peut faire croire que tout ça est pour le bien des gens qui s'inscrivent, qu'on va bien s'occuper d'eux, jusqu'où ces personnes qui s'inscrivent sont capables de croire à ces paroles pour sombrer dans, pour moi, une réelle perte de dignité, d'humanité. Enfin, qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus aucune force physique ni conscience d'eux-mêmes? Ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai trouvé dans tous ces documents d'archives. Mais les gens devenaient fous parce qu'on leur faisait croire quelque chose. Et je pense qu'on est un peu en train tous de devenir fous. Aujourd'hui, c'est mon point de vue sur notre société actuelle, en tout cas.
Mais d'ailleurs, en regardant le spectacle, on a nous-mêmes l'impression d'y participer. Et quand on sort, on est presque épuisé aussi. Et j'ai entendu aussi des gens à la salle qui, à la fin, disaient qu'ils souffraient avec les personnes. Et comme si tout le monde avait fait un marathon, en fait.
Ça, sincèrement, c'est le plus beau retour qu'on me fait. Et je reconnais que je n'avais pas forcément anticipé ça, mais je crois que c'est vraiment ce qui me plaît en soi dans la mise en scène, ou même moi en tant que spectatrice, mais c'est ce qui me plaît dans ce spectacle. C'est que, en tant que spectateur, il y a une empathie qui se met en place, qui est physique, qui est une réelle expérience de spectateur, au sens où, petit à petit, effectivement, on ressent presque cette douleur. Là, il y a une spectatrice qui me disait, nous, on était au premier rang, on bougeait nos mains comme ça pour éventuellement rattraper un des personnages qui tomberait du plateau. Oui, il y a quelque chose sur le fait que le spectateur puisse être également éprouvé qui m'intéresse beaucoup, dans l'émotion que tout ça véhicule, évidemment.
Et alors, dans le spectacle, pour revenir un peu à cette société qui devient un peu folle, il y a une phrase comme ça qui dit, il ne reste plus que les os, les yeux, le crâne. C'est dans le roman aussi, ça ?
Non, ça c'est moi. En fait, le texte, c'est vraiment moi qui l'ai écrit. Voilà, ça c'est un texte qui est arrivé en plus après la première. Je trouvais qu'il manquait quelque chose sur ce départ de Clément, qu'on sente vraiment qu'il se pose la question de qu'est-ce qui reste de moi maintenant. Maintenant que je me sens vide, stérile, qu'est-ce qui reste? Voilà, il y a le squelette, mais où est l'âme? Je ne sais pas si c'est le mot juste d'ailleurs, mais en tout cas, qu'est-ce que tout ce marathon a tué en moi? Et je pense que les yeux, c'est pour moi, raconte ça, c'est-à-dire où est l'individu là-dedans et qu'est-ce qu'on a écrasé chez moi, quoi.
En tout cas, derrière la chair.
Derrière la chair, ouais, c'est ça.
Alors, peut-être une dernière question, simplement par rapport à votre parcours, puisque vous avez à la fois un parcours de comédienne, mais aussi danseuse, du coup. C'est pour ça que vous faites du théâtre dansé, peut-être.
Oui, alors c'est sûr que je pratique la danse depuis enfant. Et puis quand j'ai voulu être comédienne, donc j'ai passé différents concours, j'ai fait la Comédie de Saint-Étienne. Mais la danse a toujours été chez moi, aussi en tant que spectatrice, vectrice d'énormément d'émotions. J'aime justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait des sensations qui ne soient pas uniquement intellectuelles au sens d'un sens que des mots véhiculent, mais que vraiment quelque chose de physique, de visuel, puisse nous émouvoir au sens de mouvoir, de bouger quelque chose en nous. C'est ça, je pense, qui est le point de départ de mon envie de mise en scène. C'est de me dire, j'aime raconter des histoires, mais j'aime cette sensation physique qui peut se passer. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces deux choses-là? C'est ma première mise en scène de cette forme-là. Donc,
première mise en scène tout court ?
Alors, je me suis auto-mise en scène quand je suis sortie de l'école dans un monologue, qui était plutôt, je pense, une envie de comédienne. Là, c'était vraiment un désir de mise en scène. Et oui, cela, c'est mon premier spectacle, donc, de mise en scène, quoi. Et ça a été la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je fais des corps au plateau ? Je veux pas que ce soit des danseurs. Il y a que Hélène Rocheteau, qui donc, à la base, est danseuse, même si on s'est rencontrés sur un projet de théâtre. Donc, je savais qu'elle avait quand même ce goût aussi du mot, du fait de parler. Mais comment est-ce que les deux choses s'imbriquent et où on accepte l'abstraction des corps, même si on est dans une fiction qui nous rappelle un effet de réel, comme le début, l'entrée des concurrents, etc. Donc c'était vraiment de passer d'un code de théâtre et de se servir des codes de la danse au sens où on arrive dans quelque chose parfois d'un peu plus abstrait, une poésie des corps qui pourrait alimenter notre narration.
Merci beaucoup. Est-ce que vous tournez encore ce spectacle ou c'est fini ?
Oui, on part dans quelques jours, là, à Noisy-le-Sec, en région parisienne. Voilà, on a encore une date au Théâtre des Bergeries. Et peut-être après, je l'espère.
Des infos sur le Facebook ou...
Oui, alors il y a toutes les informations sur notre site www.lasecondetigre.com.
La Seconde Tigre qui est donc votre compagnie, c'est ça ?
Exactement.
Et donc c'est vous ?
C'est moi.
Okay.